www.libradio.org, la radio comme en famille. Deviens meilleur, rejoins la gang, il y siège des trésors.
Bien, bonsoir à toutes et tous de vous être déplacés à une imaille pour écouter ce que je vais vous dire. Certains d'entre vous, beaucoup même, l'ont déjà entendu dans telle ou telle commune genevoise, en particulier les communes de la rive droite, bien sûr. Mais il y a eu quelques ajustements depuis ces présentations. Et puis surtout, il y a une initiative IN163 pour laquelle nous allons voter le 24 novembre. Et cette initiative se voit opposer un contre-projet qui a été demandé par le Grand Conseil. Et ce contre-projet, bien sûr, au niveau associé à la coordination régionale pour un aéroport urbain respectueux de la population et de l'environnement, eh bien, nous n'y sommes pas favorables. Vous l'aurez compris aisément. Et je vous expliquerai à la fin de ce petit exposé les raisons dans le détail qui font qu'on préfère évidemment le texte de notre initiative plutôt que le contre-projet. Si vous êtes d'accord, gardez vos questions peut-être pour la fin. Et puis comme ça, ça me permettra de dérouler l'exposé. J'essaierai de répondre bien sûr à toutes vos questions sitôt que tout cela sera terminé pour ce qui est de l'exposé du PowerPoint. Alors, tout d'abord, cette coordination régionale pour un aéroport urbain respectueux de la population et de l'environnement a pris forme dès que l'on a eu connaissance par une publication dans les journaux émanant de l'aéroport qui annonçait ce qui était prévu à l'horizon 2030. Ce n'est pas un objectif à atteindre, mais c'est une prévision qui a été réalisée par des mandataires, un bureau d'études en l'occurrence, qui était sollicité par l'aéroport, le Conseil d'État. Bref, et puis c'est une prévision qui donnait des chiffres qui nous ont bien sûr alarmés lorsqu'on en a eu connaissance, puisqu'on parle de 230 000 passagers, 230 000 mouvements d'ici 2030. Alors, c'est tous ces éléments-là, augmentation de passagers à 25 millions, on a entendu des 30 millions, on est aujourd'hui à 17,5 millions, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le canton de Genève et les communes de la rive droite, qui sont bien sûr directement impactées, vont pouvoir absorber cette pollution et ce bruit? Où va-t-on? Qui fait quoi dans cette affaire? Et du coup, cette coordination régionale a pris forme avec toute une série d'associations représentant les intérêts de tels ou tels habitants, une association très importante qui est l'association des communes transfrontalières, qui sont donc les communes genevoises, françaises et vaudoises, qui se sont aussi associées à cette coordination. Et grosso modo, nous représentons un peu plus de 130 000 habitants, comme ça à la louche, qui sont représentés par cette coordination. Et nous avons décidé d'étudier, bien sûr, ce qui était annoncé et de voir quels seraient les impacts si ces prévisions devaient se réaliser. Alors, voilà, c'est comme ceci. Tout d'abord, rappeler que l'aéroport de Cointrin est un aéroport urbain. C'est vrai que dans les années 20, quand il était construit, on était en rase campagne. Ce n'est plus le cas, vous l'aurez bien sûr compris. Mais on est dans cette situation avec une densification de l'habitat massive en bordure de l'Alpe du Loué-Cazaï et dans les communes du Grand Saconnais qui sont très proches, bien sûr, de l'aéroport. Pardon. Les quelques chiffres clés, en 2018, 17,5 millions de passagers, 187 000 mouvements, pour faire simple, 148 destinations, 57 compagnies, et 44% des bénéfices liés à l'aéroport environ proviennent des activités telles que parking et commerce. Ce sont des chiffres intéressants à connaître pour ceux qui n'en ont pas connaissance. On croit que l'aéroport, que l'activité aéroportuaire stricto sensu dégage des bénéfices en masse, mais c'est intéressant de voir que les commerces et le parking sont de gros générateurs de bénéfices. Pour la répartition simple, en gros, EasyJet 45% et la compagnie suisse 12%. Les prévisions telles qu'elles sont annoncées par l'étude d'Intraplan nous donnent cette progression du nombre de passagers et de vols pour ce qui est de l'aéroport de Genève-Cointrin, et on voit très bien depuis 2001, date du début de ce graphique, ce qui est prévu et ce qui est réalisé, parce que, encore une fois, il faut être très clair, c'est pas uniquement l'aéroport qui crée les mouvements, c'est parce qu'il y a un marketing qui est formidablement bien fait et qui fait que de plus en plus de passagers prennent l'avion. L'aéroport doit gérer des flux, quoique parfois il faut aussi pas mal de publicité pour que ces flux augmentent. Mais c'est une autre question. On est dans ce contexte-là, et puis on a... L'aviation et le climat. L'aviation est le moyen de transport le plus polluant. Il émet 3 fois plus de gaz à effet de serre que la voiture et représente environ 18% de la contribution de la Suisse au réchauffement. L'impact de l'aviation sur le climat a doublé en 20 ans et si rien n'est fait, le trafic aérien pourrait plus que tripler d'ici 2030. Tous les jours, vous le voyez avec les annonces, les nouvelles destinations qui sont proposées par telle ou telle compagnie. Donc on voit clairement dans quelle direction on se dirige. Les émissions liées au trafic aérien échappent aux impôts. La taxe CO2 au règlement, c'est une discussion qui a lieu actuellement au Parlement, s'agissant de la taxe CO2. Les vols internationaux sont exonérés de TVA et la taxe sur le kérosène également, sauf pour les vols, pour la partie de kérosène consommée sur le territoire suisse. Et ce régime d'exception, bien sûr, est une subvention, une forme de subvention indirecte à la pollution qui est générée par les compagnies aériennes. En 10 ans, l'aéroport de Genève, le nombre de passagers a doublé. Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de près de 63% en 2002 et 2012. C'est des chiffres qui ne sont pas très différents aujourd'hui. Le nombre de vols commerciaux a fortement augmenté, 23%. Et les consommations de kérosène ont très fortement augmenté aussi. Dans 11 ans, 2030, c'est demain, 25 millions de passagers annuels. Encore une fois, c'est une prévision, pas forcément un objectif, mais on n'en est pas très loin. C'est une question plutôt de sémantique. On arrivera à 21 000 passagers de plus par jour par rapport à la situation actuelle, et ceci du lundi au vendredi par rapport à la situation en 2017. C'est de ça dont on parle. Il faut bien dire 21 000 passagers de plus par jour, chaque jour du lundi au dimanche. Certains se posent la question de savoir comment ils vont faire pour accéder à l'aéroport. Mais l'aéroport nous dit qu'ils viendront au transport public pour 50%. Évidemment, ce n'est pas l'aéroport qui payera les transports publics. Et on sait déjà aujourd'hui les problèmes budgétaires que ça représente au niveau de l'État de Genève de développer les transports publics. On arrivera à 650 vols par jour et un avion qui décolle ou atterrit en mouvement toutes les 90 secondes, 18 heures sur 24. C'est de cela dont on parle et de strictement rien d'autre. À Vernier, l'association des intérêts de Vernier Village avait lancé une pétition qui a réuni près de 5000 signatures, si ma mémoire est bonne, demandant à ce qu'on puisse dormir sans bruit entre 23h et 6h, ce qui nous semblait être un droit absolu et quelque chose finalement de pas complètement loufoque et déraisonnable. Cette pétition a été remise aux autorités, commission des pétitions du Grand Conseil. On nous a écoutés poliment, mais enfin rien n'a changé. Suite à cela, il y a eu la récolte de signatures pour l'initiative pour laquelle on va voter le 24 novembre. Suite à cela, 15 000 signatures récoltées. Suite à cela, il y a eu une autre pétition dans le quartier de Cointrin qui a été lancée, qui mettait en avant le problème de la réverbération du bruit entre les différents immeubles, puisqu'évidemment, il y a un effet de résonance et le bruit est renvoyé d'une façade à l'autre, selon la manière dont les constructions sont réalisées. Donc il y a une prise de conscience au fil des mois et des années qui prouve que vraiment ce problème de nuisance, pollution bien sûr, bruit est beaucoup plus agressif également, et surtout pour les habitants de la rive droite, ces problèmes commencent vraiment à prendre une importance cruciale. Des courbes de bruit qui s'allongent, alors c'est ces fameux graphiques dont on a beaucoup discuté. Ça, c'est la première mouture qui est parue dans la presse et qui était finalement un signal d'alarme pour notre coordination. Mais je ne veux pas trop m'allonger là-dessus parce que c'est des discussions très pointues. On a notre spécialiste Mike Gérard qui est là, qui pourrait vous expliquer tout ça dans le détail. Mais on voit, sans vouloir faire d'épicerie fine, que ce cadastre du bruit traverse l'Léman pour aller en France voisine, pour l'est du canton, et à l'ouest on va aussi au-delà de la frontière cantonale en direction de Chancy. Donc il n'y a pas que les habitants de Cointrin ou de Vernier Village qui sont impactés par le bruit et bien sûr par la pollution. Courbe de bruit enveloppe correspondant aux limites d'émission pour le degré de sensibilité 2, c'est un jargon un peu technique. Mais enfin, on voit encore une fois très bien de quoi on parle en matière de cadastre de bruit. Pour faire excessivement simple, il faut savoir qu'il y a quand même des limitations à la construction d'habitation lorsqu'on est dans une zone trop exposée au bruit, Dieu soit loué. Mais ce qu'on nous dit très souvent, pour ne pas dire tout le temps, c'est que maintenant avec des vitrages doubles ou triples, avec des isolations les plus performantes, on arrive à ne plus avoir de bruit chez soi. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus ouvrir les fenêtres, on ne peut plus utiliser ses balcons, mais c'est vrai que techniquement, on peut réaliser ce que j'appelle des aquariums parfaitement insonorisés dans lesquels on n'a plus aucun bruit. Et je salue au passage M. Leprat, qui est porte-parole de l'aéroport, qui est ici, qui contrôle tous mes propos à la virgule, et je peux... Hein? Et il sera d'accord pour dire que, puisque j'ai eu le privilège d'aller à plusieurs reprises dans le bureau du directeur de l'aéroport, je peux vous dire qu'on entend les mouches voler, ce qui veut dire que quand on veut bien isoler, on peut techniquement le faire, mais M. Schneider se faire dans son bureau ne peut pas ouvrir les fenêtres, ce qui le protège du bruit, et pour vous dire que tout ceci est possible. Différentes courbes qui ne sont pas des plus intéressantes à ce niveau-là. Évolution du trafic de passagers, 2030, prévision 25 millions de passagers. On a entendu des chiffres qui vont au-delà, 30 millions, c'est pas très bien. Comment est-ce qu'on peut absorber une telle quantité de passagers? On peut prendre des avions plus gros, on peut les faire décoller et atterrir de manière plus efficace, de manière à ce que dès qu'un avion s'est posé sur la piste, tout de suite le faire sortir pour libérer la piste pour des atterrissages ou des décollages suivants. Il y a différents moyens qui permettent encore d'optimiser l'utilisation de cette piste. Et c'est dans cet esprit que cette prévision à 25 millions est techniquement possible. Évolution des prévisions de vol annuels, 248 000 mouvements à l'horizon 2030. À droite, évolution des mouvements nocturnes. Donc c'est un des problèmes principaux auxquels on est confronté, c'est que comme chez le médecin, il vaut mieux aller à 8 heures le matin, on est sûr d'être pris à l'heure par le médecin. Si vous venez en fin de journée, vous aurez tous les retards cumulés des consultations qui feront que votre rendez-vous aura une heure de retard. C'est exactement la même chose ici avec les retards liés au trafic aérien, aux problèmes des différents aéroports qui font que les vols sont très souvent reportés et nous ne trouvons pas tout à fait normal, et c'est un euphémisme, que l'on puisse laisser décoller un avion d'une capitale européenne en sachant pertinemment qu'il se posera en dehors des heures d'ouverture de l'aéroport. Ceci est en train, a été entendu par les autorités et on peut espérer des petites améliorations à ce niveau-là, mais il ne faut pas se leurrer. Avec une fréquence telle que je vous l'ai indiqué avant, un mouvement toutes les 90 secondes, il y aura un volume de bruit qui ira en grandissant, c'est certain. Les premières destinations, c'était en 2017, mais il n'y a pas beaucoup de changements. Londres, Paris, Amsterdam, Porto, Barcelone, Lisbonne, Zurich et les vols en Genève et Zurich, parce que il faut savoir aussi que pour les vols longue distance, si vous voulez aller en Amérique latine ou en Asie, vous devrez partir depuis Zurich, donc les gens partent de Genève pour un train pour se rendre à Zurich et de là, ils vont au-delà, en Asie par exemple, ou en Amérique latine ou dans d'autres destinations. Les vols de nuit entre 22h et 23h, en 2000, il y en avait 4336 mouvements, en 2016, 7267, une augmentation de 67,6%, c'est comme ça. Entre 22h et 6h, 5978 mouvements en 2000, et quasiment le double en 2016, plus précisément, plus 71%. La courbe de bruit 2017 correspond et dépasse même à certains endroits la courbe de bruit à moyen terme de la fiche PSIA, qui est ce fameux document qui a été étudié, modifié, pour lequel qui est la feuille de route de l'aéroport de Genève-Cointrin. Les habitants, les associations, les communes ont pu rédiger des remarques qui ont été lues, assurément. En comprise, c'est pas sûr, Et il ne reste pas moins que cette fameuse fiche PSIA qui a été validée par le Conseil fédéral fixe la ligne dans lequel l'aéroport de Pointe-Rhin va se développer dans les années futures. Ce plan structurel des infrastructures aéroportuaires se fait régulièrement, c'est quelque chose de normal quand on est une infrastructure telle qu'un aéroport, de faire de l'anticipation en fonction des informations que l'on peut avoir et d'adapter, parce qu'il y a quand même des investissements colossaux là derrière, vous l'aurez compris. Et la moindre des choses pour une direction, c'est de savoir comment gérer ces investissements et comment les organiser dans le temps. 5 messages clés pour comprendre l'impact climatique du trafic aérien à Genève. Tout d'abord, émanant du plan climat 2030 qui a été validé par le Conseil d'État en 2015, c'est une réflexion qui a été faite par le Conseil d'État de manière à anticiper les phénomènes liés au réchauffement climatique, entre autres, et de voir comment la ville, le canton, devrait s'adapter. Parce que certains disent, si le climat se réchauffe, on aura moins froid en hiver, puis d'autres disent, on aura tellement chaud en été qu'il faudra mettre des climatiseurs dehors partout, donc il faut de l'énergie, donc il faut revoir toutes sortes de choses. Et on rentre très vite dans des réflexions très compliquées, et c'est dans ce but que le plan climat 2030 a été réalisé. Et dans ce document, on voit que le trafic aérien pèse aussi lourd que le chauffage des bâtiments dans le bilan carbone des Genevois. Donc ce n'est pas anodin, que cet aéroport arrive à ce niveau-là en termes de bilan carbone. Concernant l'augmentation du trafic, il y a un impact climatique qui annule les efforts fournis par ailleurs, transport public, isolation des bâtiments. On isole les bâtiments, on fait de gros efforts, on fait du minergie, on met des doux vitrages, on fait des isolations, des enveloppes qui permettent de consommer moins de mazout, moins de gaz, on fait des enveloppes périphériques, bref. Parallèlement à ça, on voit que, à droite, l'évolution de la consommation d'énergie à Genève depuis 2005, pour les énergies fossiles hors aérien, une diminution. S'agissant du total des fossiles, stagnation, et en orange, le trafic aérien qui augmente ses consommations imperturbablement. Et s'agissant des émissions de CO2 des avions au départ de Genève, c'est la même chose, c'est les calculs qui ont été réalisés par NOE21, qui est une association dont l'acronyme signifie « Nouvelle orientation économique pour le 21e siècle ». Et on voit là aussi que les émissions de CO2 des avions au départ de Genève en tonnes ont augmenté de manière massive entre 2000 et 2014, pour prendre que ce graphique-là. Les ventes de carburant et de kérosène à Genève, elles ont augmenté fortement, alors que tout ce qui est essence, diesel pour les voitures et les véhicules a diminué de manière drastique. C'est une information. Ce diapositive-là, je le trouve très intéressant. Il provient également du plan climat 2030 qui a été validé par le Conseil d'État en 2015, parce qu'il nous montre aujourd'hui qu'au centre-ville, la pollution est assez forte. Elle est indiquée en rouge foncé. Et on voit qu'au niveau de l'aéroport également, une tache rouge foncé. Et pour 2030, on voit que la situation s'améliore fortement au centre-ville grâce aux efforts que l'on fait à travers la mobilité douce, l'isolation des bâtiments, les transports publics. On peut diminuer les émissions d'oxyde d'azote du canton. Et on voit également que dans la zone de l'aéroport, à contrario, toutes ces émissions vont en augmentant. Et c'est tout de même assez surprenant de se satisfaire de cet état de fait. Mais c'est pour cette raison que l'État raisonne maintenant d'une manière globale en disant, mais puisque on ne veut pas que les émissions de CO2 et de NOx augmentent, on va les laisser partir à la hausse à l'aéroport, puis on va freiner des cas de fer sur tout le reste. Ça veut dire que pour celles et ceux qui ont une tondeuse à gazon, aujourd'hui, vous pourrez la mettre au rancard dans très peu de temps. Les scooters également. Les chauffages, les normes deviennent de plus en plus serrées en termes d'émissions de CO2 ou de NOx. Que si vous avez du mazout, c'est ça terminé, ça sera le gaz. On attend d'autres énergies. Et je peux vous dire que si vous avez pris connaissance du plan directeur cantonal de l'énergie qui est en discussion actuellement, dans très peu d'années, les émissions des cheminées, des immeubles en termes de CO2 et de NOx devront être quasiment à zéro. Donc ça veut dire qu'il y a des efforts massifs qui vont devoir être faits par le commun des mortels au niveau des habitations, de manière à ce que globalement, encore une fois, ces émissions n'augmentent pas, puisque au niveau de l'aéroport, on a une augmentation massive, et l'aéroport en 2030 produira à lui seul 40% du total cantonal du NOx. Encore une fois, c'est de cela dont on parle, et de rien d'autre, c'est des chiffres qui émanent de l'état du plan climat 2030. Stabilisation du CO2 du trafic aérien par la seule amélioration de l'efficacité technologique des avions. Ça, c'est un vœu pieux, parce que c'est très bien de se fixer ceci comme objectif, mais avec une augmentation massive du nombre de mouvements, malgré les améliorations techniques qu'il peut y avoir, on n'y arrivera jamais. Et l'objectif qui est fixé par le plan climat 2030, c'est la croix en vert. On voit qu'on n'y arrivera pas, puisqu'on a un gap très important entre 2010 et 2030 qu'on n'arrivera pas à combler. Un message qui est important, parce qu'on nous dit toujours qu'il y a une corrélation maximale en ce qui concerne l'augmentation du produit intérieur brut et l'augmentation du nombre de passagers. On renvoie clairement qu'il y a une décorrélation, puisque ces chiffres donnés par l'Office mondial des statistiques prouvent, lorsqu'on les met en graphique comme ceci, qu'on n'est plus dans ce cas de figure. Probablement que ça l'a été. Pendant de nombreuses années, l'aviation se développait en corrélation forte avec l'augmentation du produit intérieur brut. Aujourd'hui, on voit qu'on a un décalage, et c'est une réalité, encore une fois, statistique qui nous l'indique. Prévision du trafic aérien très incertaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette notion d'élasticité prix, notion relativement simple, si on prend l'exemple que j'aimerais rappeler, qui est celui du pain. Si le prix du pain baisse de 10%, est-ce que la consommation de pain va augmenter de 10%? Assurément pas. S'agissant de l'aviation, c'est tout à fait le contraire. Si les prix baissent, le nombre de passagers qui va prendre l'avion va augmenter. Si les prix montent, le nombre de passagers qui va prendre l'avion va diminuer. Donc on voit que le prix est une donnée très sensible à la hausse ou à la baisse, et qui a un très fort impact sur le nombre de passagers. Raison pour laquelle, dans les débats qui se font actuellement au niveau du Parlement, lorsqu'on nous dit que si une taxe CO2 sur les billets d'avion de 30 francs ferait que les gens n'iraient plus prendre l'avion à Cointrain, mais iraient à Lyon, c'est tout simplement irréaliste et fantaisiste. De même que, s'agissant de l'automne, si les gens devaient payer 30 francs en plus du prix du billet, que les gens, imaginez que les gens iraient à Munich pour prendre l'avion, est tout simplement, là aussi, irréaliste. Mais c'est une donnée dont il faut prendre conscience, et puis tout le modèle économique relatif au low cost nous prouve que, effectivement, beaucoup de gens qui n'avaient aucune raison particulière de partir souvent en fin de semaine à gauche ou à droite dans une capitale européenne le font, parce que au prix des billets, ben, pourquoi pas. Et évidemment que dès qu'ils sont dans l'avion, ils oublient les impacts que ce vol aura. L'aéroport, il faut le savoir, de ses bénéfices reverse la moitié à l'État. C'est une bonne source de revenus pour l'État, parce que l'État a un besoin permanent de revenus. Donc pour 2018, la moitié est revenue dans les caisses de l'État, 42,5 millions de francs. Simplement, comme il y a un régime fiscal particulier, on peut aussi estimer qu'il y a un manque à gagner, qui est estimé par l'association Noé 21 à quelques 450 millions de francs par année. L'impact du bruit, lorsqu'on avait ces cartes avec ce cadastre du bruit, a bien sûr un impact sur le prix des habitations. Et pour la commune de Versoix, une estimation nous indique une moins-value immobilière de quelque 325 millions de francs. Ce qui veut dire, si on extrapole ces chiffres pour les autres communes situées sur la rive droite principalement, on arrivera rapidement à des sommes excessivement importantes. La question est toujours la même: comment internaliser les coûts comment faire rentrer dans le prix des billets les externalités négatives, donc les coûts indirects générés par des pollutions, par des impacts sur le bruit, Et c'est un problème permanent auquel nous sommes confrontés parce que lorsque l'on isole des bâtiments, si on est dans la zone très proche de l'aéroport, il y a un fonds qui permet de toucher de l'argent qui est financé par les compagnies aériennes en fonction des taxes qui leur sont assujetties et qui est une taxe en fonction de la vétusté ou non-vétusté de leur flotte aérienne. En clair, plus les avions sont anciens, bruyants et polluants, plus ils payent une taxe élevée. A contrario, plus vous avez un avion de dernière génération, moins cette taxe est élevée. Et ce fonds récolté permet de réaliser, de participer aux frais d'isolation des bâtiments. Il n'empêche que, encore une fois, avec des fenêtres parfaitement isolées, vous pourrez diminuer fortement le bruit dans votre habitation, dans votre logement, mais il s'agira bien sûr dans aucun cas d'ouvrir les fenêtres. Les coûts ont été estimés par Ecoplan s'agissant de la santé publique à quelque 37 millions de francs pour la pollution de l'air et 66 millions pour le bruit. Pas d'autres études spécifiques, mais on sait très bien que lorsqu'on rentre dans ces considérations, c'est comme lorsqu'on met quatre juristes autour d'une table, tout devient vite compliqué et on ne sait plus tellement de quoi on parle. Il ne reste pas moins qu'il y a des données importantes dont il faut quand même, qu'il faut garder à l'esprit. Le bruit, bien sûr, c'est une forme de pollution très agressive. La pollution de l'air, mis à part les personnes qui sont malheureusement très sensibles à ça, est beaucoup plus sournois parce que les dégâts se font à long terme. Alors que le bruit, ben, quand vous y êtes soumis, vous y êtes soumis. Si vous en éloignez de la, si vous éloignez de la source de bruit, eh bien vous serez bien sûr très rapidement à l'abri de cela. Impact sur la mobilité, on l'a mentionné avant, 26 000 passagers de plus par jour du lundi au dimanche, donc tout un problème lié aux infrastructures de transport dans le quartier de l'aéroport. S'agissant des particules fines, on se rend compte que on pouvait imaginer aisément qu'à Montana, l'air soit de meilleure qualité qu'à Genève. On a des petites anomalies qui peuvent être liées à des phénomènes géographiques ou dans des vallées comme à Lugano, où le trafic aérien est bien sûr une fraction de ce qu'il est à Genève. On a quand même des taux de particules fines élevées liés au trafic routier en particulier. Et s'agissant de Genève, on se rend compte qu'à Agnières, sans que les gens le sachent, eh bien, ils ont une qualité d'air en termes de PM10, inférieur à 10 microns, qui n'est de loin pas des meilleurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Concernant cette étude relative aux fonctions pulmonaires, on se rend compte aussi que, dans le même sens, à Montana, par définition, on respire mieux, pour faire très simple, qu'à Genève ou à Lugano, mais ce n'est pas un scoop, vous en conviendrez. Lorsqu'une activité économique génère autant d'impacts négatifs en termes de bruit et de pollution, on ne peut plus raisonner qu'en termes de croissance et de développement. Ça nous semble assez logique. L'État doit protéger ses citoyens de ces nuisances et non participer ou laisser faire des augmentations. C'est d'ailleurs l'une des tâches régaliennes de l'État. Dans la Constitution genevoise, c'est indiqué très clairement à l'article 157, l'État protège les êtres humains et leur environnement. Il lutte contre toute forme de pollution en mettant en œuvre les principes de prévention, de précaution et d'imputation des coûts aux pollueurs. C'est le fameux lien de causalité, la notion de pollueur-payeur. On retrouve la même chose au niveau de la Constitution fédérale, bien sûr. Il est donc temps de reprendre en main notre aéroport et cette initiative constitutionnelle pour un pilotage démocratique déposée par la CARP vise trois objectifs principaux. Maîtriser le développement de l'aéroport en prenant en compte autant la population que les besoins économiques et de l'environnement. Rappeler le caractère public de l'aéroport de Genève, établissement de droit public. L'aéroport appartient aux Genevois, les terrains, les bâtiments. Il y a une licence d'exploitation, bien sûr, qui est délivrée par l'Office fédéral de l'aviation civile. Enfin, l'aéroport et les terrains, les bâtiments appartiennent aux Genevoises et aux Genevois. Et dans la Constitution genevoise, vous trouverez traces des TPG, des HUG, des CIG, mais pas de l'aéroport. Donc on estime que c'est un manquement qu'il faudra combler à travers cette initiative. Et on tient à assurer une consultation des personnes concernées. Parce que, évidemment, en Suisse, avec notre système fédéral, une démocratie qui est absolument formidable, on nous dit toujours, oui, mais finalement, lorsque vous élisez des personnes aux différents niveaux politiques, ce sont elles qui représentent la population. Mais hein, on sait très bien que dans certains cas, ça ne suffit pas. Et on aimerait bien que la population ou les communes concernées, s'agissant de l'aéroport, puissent aussi donner leur avis et pas seulement laisser le Grand Conseil et le Conseil d'État décider. S'agissant de l'initiative 163 pour laquelle nous serons appelés à voter le 24 novembre, notre initiative indique que l'aéroport international de Genève est un établissement de droit public. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Le contre-projet indique que Genève Aéroport est un établissement autonome de droit public. On n'a pas tellement de discussion là-dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, quoi qu'il en soit, la marge de manœuvre dans cette affaire était excessivement faible. Nos juristes ont travaillé fort pour essayer de trouver quelques solutions, mais c'est de loin pas ça qui est le plus important. On est tous unanimes sur cette question-là. Article 2, nous proposons, dans le cadre défini par la Confédération et les limites de ses compétences, l'État tient compte du caractère urbain de l'aéroport et recherche un équilibre entre son importance pour la vie économique, sociale et culturelle et la limitation des nuisances pour la population et l'environnement. Le contre-projet, lui, indique, dans le cadre défini par la Confédération et les limites de ses compétences, l'État veille à ce que la qualité de la desserte aérienne, on ne sait pas très bien ce que c'est que la qualité d'une desserte aérienne, réponde aux besoins de la population, des entreprises et de la Genève internationale. Ce qui veut dire, en clair, comme ça se passe maintenant, ça va très bien, continuons. Concernant l'article 3, l'État prend en particulier toutes les mesures adéquates pour limiter les nuisances dues au trafic, notamment le bruit, les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre, et pour mettre en œuvre les principes d'accomplissement des tâches publiques définies dans la présente Constitution, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de la promotion de la santé. Le contre-projet, lui, indique que l'État prend les mesures adéquates pour limiter les nuisances dues au trafic aérien dans le respect du droit supérieur. C'est une banalité parce que c'est comme ça que ça se passe dans tous les cas de figure, tout en visant un équilibre entre les enjeux économiques, le développement des emplois et les exigences d'un développement durable en accord avec sa mission. Alors, c'est quand même une phrase assez alambiquée, vous en conviendrez, parce que pour beaucoup, le développement durable, on pourra discuter de la définition, mais si c'est le recyclage des bouteilles en PET et des canettes d'aluminium, c'est un peu mince, c'est pas de cela dont on parle, vous l'aurez compris. Article 4, l'aéroport de Genève rend compte aux autorités cantonales et communales de la façon dont les objectifs précités sont planifiés, puis mis en œuvre au regard des limites définies par la Confédération. Ils soumettent en particulier régulièrement au Grand Conseil pour approbation un rapport relatif aux actions entreprises et principaux objectifs à moyen et long terme. Et le contre-projet qui est proposé par le Grand Conseil indique « Genève Aéroport rend compte aux autorités cantonales de la façon dont les objectifs précités sont planifiés, puis mis en œuvre en lien avec la Confédération, l'Office fédéral de l'aviation civile. Au début de la législature, une convention d'objectifs est signée entre le Conseil d'État et Genève Aéroport. » Donc on voit que c'est une discussion qui se fait entre le Conseil d'État et Genève Aéroport, les communes, la population, n'ont bien sûr rien à dire, encore une fois, puisque l'idée de base de celles et ceux qui ont rédigé le contre-projet, un parti politique, je ne l'aimerais pas, est de dire, puisque vous avez élu des députés, ben c'est eux qui font le boulot, et ça suffit largement. Donc on n'est pas satisfait de ce contre-projet. Et nous citons ce contre-projet comme étant un contre-projet trompe-l'œil, ou poudre aux yeux, ça dépend. Il a été adopté par le Grand Conseil, il est donc dans la Constitution la situation actuelle, ce qui n'est pas satisfaisant. Pas d'extension de la concertation, puisqu'on a vu que c'était entre le Conseil d'État et le Grand Conseil que les choses se discutent, avec l'aéroport bien sûr. L'initiative nous paraît plus nécessaire que jamais. Vous l'avez compris, donc ce texte, pour nous, il est rédigé de manière à sortir tous les éléments forts que nous avions dans l'initiative pour devenir quelque chose d'un peu insipide. Et on trouve vraiment que l'État, dans cette affaire, n'a aucune reconnaissance de la gravité de la situation qui prévaut déjà en termes de bruit et de pollution. En conséquence de ces éléments que je vous ai rapidement lus, expliqués, nous vous proposons de voter non au contre-projet oui à l'initiative 163 et s'agissant des questions subsidiaires, bien sûr, de préférer l'initiative. Si vous ne le faites pas, si la majorité des Genevoises et des Genevois ne nous suivent pas, on risque fortement d'arriver à cette situation et c'est bien sûr tout ce que nous aimerions pouvoir éviter. Voilà, j'ai été vite, je m'arrête là et je vous répondrai volontiers à vos questions s'il y en a et j'espère qu'il y en aura. Merci de votre attention. Merci. Ah, excusez-moi. Mon nom est Jean-François Bouvier. J'ai présidé jusqu'à il y a quelques mois, pendant 15 ans, l'Association des intérêts de Vernier Village. Et par cette fonction-là, j'étais dans la coordination CARP, bien sûr, et habitant à Vernier. Et même en étant né à Vernier, j'ai pu suivre l'évolution des nuisances liées à l'aéroport. Est-ce que vous voulez
des questions? Bien. On va ouvrir le débat à la salle.
Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, monsieur le pape.
Monsieur Bouvier, bonjour, on se connaît bien.
Oui, tout à fait.
Vous savez que je suis un employé d'un établissement public, donc je serais neutre et indépendant. par contre, c'est juste parce qu'il s'agit ici, on n'est pas encore en campagne, on est en train de rôder le discours, donc on est dans une phase de pré-campagne, en plus, on est en train d'adopter la connaissance de l'instruction de votation. Donc je me permets juste, au fond, je ne vais pas reprendre mes attitudes, ce n'est pas le propos ce soir. Par contre, je pense que ça n'aura trompé personne, je me permets juste d'introduire un petit élément de réflexion. Au fond, dans votre planche, la Confédération n'existe pas. L'environnement international, c'est vrai que l'aviation, c'est strictement national, on est bien d'accord. Et au fond, ce que je trouve assez intéressant, c'est que vous considérez que la Constitution sera la solution, je le vois, sera la solution du règlement de tous les problèmes de l'aviation. Ce qui est intéressant, c'est que sur la trentaine de planches que vous avez diffusées, il y en a une qui évoque en quatre lignes. Un document du canton central, et vous savez bien, parce qu'on a fait 50 discussions entre le canton, l'aéroport et le Conseil fédéral, qui a été adopté en novembre dernier par le Conseil fédéral, puis traduit dans une convention d'objectifs que vous avez nommée par le Conseil d'État, donc c'est un accord solide entre le gouvernement fédéral et le gouvernement genevois, et vous l'évoquez au détour d'un slide en quatre lignes, pour dire d'ailleurs que ce qui vous intéresse, c'est uniquement les objectifs 2018, alors même que ce document porte sur une perspective 2030 et entend réduire l'empreinte sonore de Genève Aéroport, ce que vous avez oublié d'évoquer naturellement. Mais tout ça pour vous dire que je pense que ça ne trompera personne ici. L'évidence est que la Constitution genevoise ne sera pas le lieu dans lequel on va régler la problématique des nuisances aéroportuaires de Genève Aéroport, c'est un monde évidemment ultra bien connecté, une régulation extrêmement forte au niveau international. Par ailleurs, un accord bilatéral avec l'Union européenne qui pour l'instant n'est pas discuté, mais votre intention est peut-être de discuter pour l'avenir, comme si on avait besoin de ça en ce moment avec l'Union européenne. Mais voilà, je voulais juste distiller cette petite touche d'environnement national, international, j'irai pas plus loin. Ça paraît relativement important, parce que sinon le débat, vous en conviendrez, est nécessairement imparfait. Merci.
Merci, monsieur Lepra. Effectivement, on a omis de parler de la Constitution fédérale, on a juste cité dans un slide la Constitution cantonale, on est parfaitement conscient et nous ne sommes pas inconscients au point d'imaginer que la Constitution cantonale va régler le problème du trafic aérien international. On sait très bien qu'il y a des accords qui datent d'il y a très longtemps, s'agissant notamment de la taxation du kérosène, d'accord, Chicago et autres, qui font qu'on ne va pas y arriver. Mais on n'est pas parfait, vous serez tolérant à notre égard de ce point de vue-là, mais ce que l'on constate, alors en dehors des chiffres qui sont de 2018, qu'on n'a pas peut-être réactualisé parfaitement, mais l'idée générale est de dire personne ne conteste l'utilité de l'aéroport de Genève-Cointrin. Absolument personne. Enfin, je connais personne qui le contesterait. Personne ne conteste le fait que dans le développement économique de la région genevoise, ou du canton de Genève, on ne parle que de lui, l'aéroport a joué un rôle fondamental, c'est une évidence. Et les évidences doivent être répétées, donc je le dis volontiers. Là où le problème se situe, c'est les excès. C'est lorsque l'on arrive à des chiffres tels que ceux que je vous ai énumérés, qui figurent dans, dans le document, dans cette fiche PSIA, où on peut lire que c'est la fiche PSIA que vous avez ici, vous pouvez regarder sur Internet. On nous indique ces chiffres, encore une fois, de 236 000 mouvements à l'horizon 2030. Alors, ça signifie qu'on arrivera à un mouvement toutes les 90 secondes, c'est de cela dont on parle. Et la question qui vient tout de suite, c'est de savoir dans quelle mesure nos autorités cantonales, mais bien sûr fédérales, parce que la problématique est la même dans la région de l'aéroport de Zurich-Lautern, dans quelle mesure la Confédération accepte ou veut imposer à la population, au nom d'éléments de données purement économiques, faute de pouvoir discuter, échanger la Suisse toute seule, la réglementation internationale en matière de trafic aérien, jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir supporter et voire imposer à une population toujours plus nombreuse aux alentours des aéroports, c'est pas l'aéroport qui en est responsable en tant que tel, mais une charge sonore aussi importante et des niveaux de pollution aussi importants. C'est un débat de société. C'est un débat de société qui doit être posé, qui a été discuté âprement au niveau de l'Office fédéral de l'aviation civile. On a des conseillers d'État qui sont allés là-bas. On a voir aussi le Conseil fédéral qui a été interpellé à moult reprises. Ça a été très long, vous avez bien fait de le rappeler. C'est des discussions qui ont été très ardues. On sait qu'à l'Office fédéral de l'aviation civile, les gens ne sont pas tellement prêts. Ils peuvent écouter ce que vous voulez bien leur dire. Mais enfin, ils sont droits dans leurs bottes et ils ne sont pas prêts à plier les chines facilement. Et on a estimé qu'on ne pouvait pas continuer comme ça et laisser faire, d'où cette initiative 163. Nous sommes bien conscients que, comme elle sera acceptée, cela ne va pas diminuer du jour au lendemain ou couper en deux le nombre de vols ou de mouvements à l'aéroport Genève-Cointrin, mais simplement on aimerait que par cette pression le Grand Conseil puisse suivre et interpeller quand il le faut, comme il le faut, et suivre de près ce que l'aéroport prévoit de faire, bien sûr dans la limite des compétences des uns et des autres. On aimerait qu'il y ait une pression maximale, et on n'a pas le sentiment que ça a été le cas pendant de très nombreuses années au niveau de l'économie à Genevoise, qui nous a un petit peu probablement dansé sur le ventre pendant très longtemps quant au fait de savoir si on pouvait augmenter ou pas un niveau maximum, je dirais, des taxes de bruit, de surbruit pour les avions, parce que ces taxes, dans certains milieux, on n'aime pas trop en entendre parler, mais une taxe incitative est tout à fait acceptable, puisque son but est d'inciter les compagnies aériennes à prendre plus vite des machines moins bruyantes et qui consomment moins de kérosène. Donc ce n'est pas des taxes au sens strict qui sont uniquement là pour remplir un fonds, c'est des taxes incitatives qui tombent dès l'instant où on a atteint l'objectif. Et là, on a constaté que le Conseil d'État à Genève, en très longtemps, ne prenait pas en compte tous ces éléments-là et nous disait toujours « mais l'économie, le marché, c'est le marché, si on touche de près ou de loin à l'aéroport », parce que je tiens quand même à vous rappeler que s'il y a 20 ans on avait tenu ces propos-là, on aurait tous, ceux du comité de la coordination, on aurait tous été pendus haut et court aux différents lampadaires qu'on trouve dans cette ville de Genève. L'aéroport était un sujet complètement tabou. Aujourd'hui, heureusement, c'est plus le cas. Et on s'est rendu compte que finalement, les exigences pour diminuer les nuisances imposées à la population finalement étaient très timides de la part, encore une fois, du Conseil d'État de l'époque, parce qu'on nous disait mais si vous touchez de près ou de loin à l'aéroport, le PIB cantonal va chuter de 50%, le taux de chômage va augmenter de 200%, ça serait une catastrophe accomplie, ce qui est bien sûr complètement faux. Alors ce sont les excès, encore une fois, de cet aéroport qui posent problème. Et on est en droit de se poser la question aujourd'hui, dans un canton aussi exigu que le canton de Genève, qui aujourd'hui a franchi la barre des 500 000 habitants. On le voit, regardez les plans localisés de quartiers, regardez les constructions où elles sont situées, massivement sur la rive droite, donc dans la zone de l'aéroport, soumis au bruit, mais encore une fois, avec l'argument qui consiste à dire on a des isolations des bâtiments parfaites, donc on n'a pas de bruit dedans, ce qui sous-entend simplement qu'on ne peut plus ouvrir les fenêtres ni utiliser ces balcons. Et ça, nous estimons que ce n'est plus tolérable. Alors, on est parfaitement conscient, et je terminerai par là cet aspect de la question, tout seul, c'est pas le canton de Genève qui va révolutionner le trafic international, mais il faut au minimum que le Conseil d'État maintenant, à travers cette convention d'objectifs qui a été signée au mois de mai, si ma mémoire est bonne, avec l'aéroport, que cette convention soit respectée et vraiment scrupuleusement par l'aéroport. Et par contre, c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait une convention d'objectifs qui soit imposée à l'aéroport, cette convention a été signée entre le Conseil d'État et l'aéroport, mais il faudra aller plus loin dans les objectifs. Et ce qui nous déplaît fortement, c'est que cette convention ne soit discutée que entre l'aéroport et le Conseil d'État, et que ça se limite à cela. Et dans ce sens-là, nous pensons que par cette initiative 163, qui sera acceptée par la population genevoise, je le souhaite, on puisse aller encore plus loin et plus rapidement. Parce qu'on nous dit toujours, mais vous savez, soyez sages, soyez patients, la technologie va régler tous ces problèmes. Les progrès techniques sont tels que bientôt les avions ne feront plus de bruit, la pollution, ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir, mais la réalité, elle est toute différente. Et j'ai regardé avec l'aide de notre ami Mike Gérard, vous savez que les avions sont classés en 5 catégories, 1, 2, 3, 4, 5, en fonction du bruit qu'ils font. Eh bien, la compagnie EasyJet Suisse, 0% avion classé dans la meilleure catégorie. EasyJet Europe, 0% avion classé dans la meilleure catégorie. Seul EasyJet UK a une flotte de 4,94% total classée dans cette catégorie 5. A contrario, la compagnie suisse, filiale de Lufthansa, vous le savez, elle qui a opté pour des machines de nouvelle génération qui s'appelaient Bombardier, qui sont devenues Airbus A220, si ma mémoire est bonne, eh bien la compagnie suisse, elle seule, avec cette option qu'elle a prise, consommer moins de kérosène, ce qui est très bon pour les résultats financiers, vous en conviendrez, et moins de bruit, près de 20% de bruit en moins, ce qui est immense, ça représente à elle seule, pour la compagnie suisse, 48% du total des avions en catégorie 5. Mais dès l'instant vous avez une augmentation massive du nombre de mouvements, le bruit que vous percevez, pas le bruit calculé, parce que toutes ces coupes de bruit, je vous ai montré, ce sont des bruits calculés, c'est pas le bruit enregistré avec des micros. Mais le bruit que les individus emmagasinent de 6h le matin à minuit 30, avec un mouvement toutes les 90 secondes, va bien sûr être supérieur à ce qui était emmagasiné il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Donc, de croire que la technique va pouvoir tout améliorer, c'est un leurre complet. Ce n'est pas ça dont on parle. Ce ne sera simplement pas possible. Voilà.